10h, Olivier Delacroix sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1, nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 16h. Je suis Olivier Delacroix et je suis ravi de vous retrouver comme chaque jour pendant une heure en compagnie de ma camarade Ambline. Comment allez-vous,
ma chère ? Bonjour, ça va bien, bonjour à tous.
Écoutez, nous sommes aujourd'hui le jeudi 20 décembre et pendant cette heure, nous allons encore partager vos expériences de vie car Europe 1 s'intéresse comme chaque jour à votre vécu. C'est un problème de santé publique important, martèle l'Organisation Mondiale de la Santé, alors que la population est de plus en plus vieillissante. Des millions de personnes âgées et leurs proches signalent des actes de malveillance dans les établissements d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes, les EHPAD. Faute au manque de moyens, de personnel et de formation, on estime que 6% des résidents des EHPAD ont signalé des abus importants. Violence physique, oubli, soins bâclés, cette maltraitance est aujourd'hui un enjeu primordial. Mais que faire quand le personnel médical est dépassé, un personnel qui se dit usé, complètement à bout? Comment faire pour que nos seniors se sentent à leur place, bien traités dans ces établissements? Les EHPAD, que faire contre la maltraitance? C'est notre sujet d'aujourd'hui sur Europe 1. Nous attendons vos témoignages, vos histoires. Nous sommes là pour vous écouter car ces histoires nous concernent toutes et tous.
Et comme chaque jour, vous n'hésitez pas donc à composer le 39-21. Le standard d'Europe 1 est ouvert, 39-21, 50 centimes la minute. Vous nous écrivez sur Facebook via le groupe de l'émission ou bien sûr sur Twitter avec hashtag Europe 1.
15h, 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous accueillons sur l'antenne d'Europe 1 Frédéric. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous?
Alors moi, je vous appelle pas pour m'appeler, je m'appelle Frédéric Pommier, j'ai 43 ans, j'ai écrit un livre sur ma grand-mère.
Mmh. Votre grand-mère qui s'appelle Suzanne, qui a 95 ans aujourd'hui. Depuis combien de temps est-elle en établissement pour personnes âgées et dépendantes?
Elle est en établissement depuis bientôt un an et demi. Elle a passé 9 mois dans un premier établissement où ça ne s'est pas bien passé. Pas très bien passé, c'est ça que j'ai décidé de raconter en partie. Elle avait l'habitude, par exemple, de manger bien, de faire de grandes tablées. Elle a toujours aimé manger. Là, elle considérait d'abord que c'était totalement indigne ce qu'on lui donnait à manger.
Oui.
Par exemple, qu'elle ne savait pas ce qu'elle avait dans son assiette et que c'était insipide. Elle a perdu 20 kilos en quelques mois. Ça, c'est la première chose qui l'a choquée et qu'elle estimait indigne. Après, elle ne supportait pas la manière dont certaines personnes pouvaient lui parler. Elle ne supportait pas la façon infantilisante que certaines personnes avaient de lui parler en l'appelant parfois petite mamie. Elle ne disait, je suis pas leur petite mamie.
Oui.
Et puis, elle se sentait brusquée aussi, brusquée pour s'habiller, brusquée pour la toilette également. Dans plein d'établissements, vraisemblablement, le manque de personnel et le manque de formation d'une partie des personnels fait que les résidents se sentent pas forcément bien traités.
Comment Suzanne, votre grand-mère, a-t-elle été amenée à aller dans cet EHPAD? Est-ce qu'elle l'a choisi cet EHPAD? Est-ce que ça a été une concertation entre vous tous pour en arriver à cette constatation que ça n'était pas du tout adapté à ses attentes?
Suzanne, elle a toujours dit qu'elle n'irait jamais en maison de retraite. Ouais. Qu'elle préfère se jeter dans la rivière ou se pendre que d'aller dans une maison de retraite, et elle a réussi à rester chez elle jusqu'à 95 ans.
Mmh.
Mais elle a commencé à perdre l'équilibre, elle a commencé à tomber de plus en plus souvent, et même s'il y avait pas mal de gens pour l'accompagner dans la journée, des aides ménagères le matin et le soir, des infirmières qui venaient le matin et le soir, des plateaux repas qui lui étaient servis le midi également, au bout d'un moment, ça devenait dangereux pour elle de rester chez elle et ça devenait même dangereux pour ceux qui s'occupaient d'elle.
Mmh.
Elle n'avait pas énormément de famille juste à côté d'elle, donc elle n'a jamais été toute seule néanmoins. Mais elle s'est résignée à 95 ans à ne plus habiter seule chez elle. Et quand on est vraiment dépendant, quand on est presque grabataire, Suzanne en l'occurrence, elle a toute sa tête, mais c'est le corps qui ne suit plus.
Oui.
Elle a des difficultés pour marcher, et c'est pour ça aussi qu'elle tombe, et c'est ce qu'on appelle une personne très dépendante. Mmh. Aujourd'hui, pour les personnes très dépendantes, il n'y a que les EHPAD. Voilà. Quand les personnes sont moins dépendantes, il y a d'autres solutions qui sont offertes, et le maintien à domicile en premier lieu, mais quand la dépendance est trop importante, c'est l'EHPAD. Donc non, il y a été à reculons, et puis une fois qu'elle a constaté différents dysfonctionnements, elle a manifesté son avis, son envie d'en sortir aussi. De toute façon, même aujourd'hui encore, elle dit qu'elle serait mieux ailleurs. Mm-hmm. Mais l'établissement où elle est aujourd'hui est nettement mieux que le premier où elle a pu passer quelques mois.
D'accord. Et cet établissement, en fait, Suzanne avait-elle les moyens de choisir cet EHPAD ou alors non ?
Elle en a visité plusieurs, me semble-t-il. Moi, j'étais pas là à ce moment-là. Elle a fait ça avec ses filles. Mmh. Elle a fait ça avec ses filles, mais la qualité d'un établissement n'est pas forcément liée au coût.
D'accord.
C'est ça qui est dingue.
Ah oui.
C'est qu'on ne mange pas forcément mieux dans un établissement où on paye 4 ou 5 000 euros que dans...
D'accord. J'ai pas très bien entendu la fin de votre réponse est passée un petit peu. En octobre dernier, vous avez publié, Frédéric Pommier, l'ouvrage Suzanne, justement aux éditions des Équateurs. C'était un moyen de laisser une trace de la vie de votre grand-mère et de ce qu'elle vit actuellement et de ce qu'elle a vécu dans cette EHPAD ?
Et moi, à partir du moment où j'ai pris la parole, j'ai reçu beaucoup de sur ce sujet-là,
oui.
De l'accueil de nos anciens, parfois accueil dysfonctionnant. J'ai reçu des témoignages par centaines, des témoignages de familles qui me disaient à quel point leurs parents, leurs maris, leurs femmes étaient maltraités.
Mm-hmm.
Et j'ai reçu également énormément de témoignages de soignants qui me racontaient, alors pour certains, qu'ils y arrivaient. Et qu'il fallait arrêter de dire que les EHPAD étaient tous des établissements dysfonctionnants, c'est vrai. Dans la majorité des établissements, ça se passe super bien, parce qu'il y a une direction qui fonctionne bien et parce qu'il y a des aides-soignants en nombre suffisant, mais dans trop d'endroits, ça se passe pas bien.
Mmh.
Et parmi les témoignages qui, moi, m'ont le plus touché, c'était les soignants qui me disaient « On ne sait même pas qui sont les personnes dont on s'occupe.
Mmh.
On ne connaît rien de leur vie. » Et on connaît à peine leur pathologie. Ce que j'ai voulu faire dans mon livre, justement, c'est raconter la vie de ma grand-mère.
Mm-hmm.
C'est de dire qu'elle n'a pas toujours eu 95 ans, qu'elle n'a pas toujours été dépendante.
Mais évidemment.
Et que, comme toutes les personnes de ces établissements-là, elle a vécu plein de trucs avant.
Mm-hmm. Comme nous vivons actuellement, et nous tous, un jour, nous dirons ce qui est assez étonnant dans votre témoignage. Et nous allons bien évidemment continuer à parler des témoignages, des nombreux témoignages que vous avez reçus, Frédéric Pommier. Mais c'est que c'est assez étonnant de voir que malgré le prix que peut coûter un EHPAD, on n'a pas obligatoirement la qualité qui va en face. On va bien évidemment continuer de parler de Suzanne et puis des nombreux témoignages que vous avez reçus juste après la parution de votre ouvrage. À tout de suite.
Les maisons de retraite sont-elles devenues des lieux de maltraitance ? Comment lutter contre ce fléau ? Vous nous racontez votre histoire au 39-21. Vous pouvez aussi nous écrire, nous poser vos questions, vos messages sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Vous échangez avec Olivier Delacroix au 39-21 sur Europe 1. On parle de la maltraitance dans les maisons de retraite. Comment lutter contre ce fléau ? On vous écoute et on vous lit via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1.
Et nous sommes toujours en ligne avec vous, Frédéric Pommier, au 39-21. Vous nous expliquez avoir publié cet ouvrage Suzanne, qui relatait le parcours de votre grand-mère dans ses différents EHPAD, et avoir reçu des centaines de témoignages de maltraitance. D'abord, est-ce que vous vous attendiez à recevoir autant de témoignages ? Et que vous a-t-on raconté et relaté dans ces témoignages ?
Alors, les témoignages que j'ai reçus, ce n'est pas depuis la parution du livre, c'est depuis que j'ai pris la parole sur ce sujet. C'était sur l'antenne sur laquelle je travaille,
oui.
Où en effet, j'ai raconté l'histoire de ma grand-mère. Et c'est suite à ça que j'ai reçu des témoignages très, très, très nombreux. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient si nombreux.
C'est ce qui vous a, vous a donné envie d'écrire ce livre ?
C'est ce qui m'a donné envie de poursuivre, en effet, de rendre à ma grand-mère son histoire, de lui rendre un peu sa mémoire, de lui rendre ses jambes aussi.
Mmh.
Puisque dans le livre, je raconte ce qu'elle était petite fille, ce qu'elle était adolescente, femme, et la grand-mère géniale qu'elle a été et qu'elle est toujours. Les témoignages que j'ai reçus, les gens me racontaient que leurs parents, leur mari, leur femme avaient vécu effectivement bien pire. Moi, j'ai découvert des choses que je ne savais pas. Je ne savais pas que dans certains établissements, on obligeait les résidents, quand ils arrivaient, à mettre des protections. Simplement parce qu'on n'a pas le temps de les emmener aux toilettes 3 fois par jour. Donc on les rend incontinents. Et comme on fait des économies sur tout, y compris sur les protections, il arrive qu'on les laisse 3 heures dans des protections souillées. Je ne savais pas que dans certains établissements, les soignants étaient contraints d'aider à manger 3 résidents en même temps, voire 4. Et qu'eux-mêmes le disent, ils font du gavage finalement. Ils mélangent l'entrée, le plat pour aller plus vite parce qu'ils n'ont pas le temps. Je ne savais pas que dans certains établissements, des résidents mouraient de faim. Aujourd'hui, en France, en 2018, j'ai plusieurs témoignages qui me racontent ça simplement parce que parfois il n'y a pas de personnel pour aider la personne à manger.
C'est cette indignité dont vous parlez ces témoignages que vous avez reçus. Qu'est-ce que ça révèle à votre avis ?
Mais ça révèle qu'on n'a pas du tout anticipé le vieillissement ou l'allongement de la vie des Français. Pour la première fois depuis le début de l'histoire de l'humanité, nous vivons sur 5 générations. Ça n'est jamais arrivé avant. C'est la première fois qu'on vit sur 5 générations. Donc on s'achemine vers une génération de centenaires. Les enfants des centenaires, ils ont 70, 75, voire 80 ans. Ils ne sont pas en mesure de s'occuper de leurs parents comme on pouvait le faire il y a 30 ou 40 ans.
Ils sont susceptibles, eux aussi, de se retrouver dans des EHPAD.
Oui, ou d'être malade en tout cas, et d'être petit à petit dépendant. Aujourd'hui en France, il y a 1 200 000 personnes de plus de 85 ans. On n'est pas forcément dépendant à 85 ans. Mais en 2060, il y en aura 5 millions, et j'en ferai partie. Donc ça va être, on multiplie le nombre d'octogénaires par 5. Il faut anticiper ça. Et les pouvoirs publics ne l'ont pas anticipé vraisemblablement. Et puis, c'est pas très sexy de s'intéresser au très grand âge. Donc tout le monde se cache les yeux et ou se cache la tête dans le sable parce que ça fait un petit peu peur de réfléchir au grand âge et parce que c'est penser à son propre vieillissement et penser à sa propre mort.
Mais en tout cas, ces maltraitances dans les EHPAD, c'est selon vous un scandale d'État et c'est ce que vous dénoncez. Mais à votre avis, pourquoi n'est-ce pas devenu une priorité nationale ?
Précisément parce que... Parce que c'est pas hyper sexy comme sujet. Et alors que tout le monde s'achemine vers le vieillissement, on ne veut pas trop le voir parce que on a l'impression qu'on fait avec d'une certaine manière. À nouveau, il y a plein d'établissements où ça se passe très bien. La majorité des établissements, ça se passe bien. Mais les familles, quand elles constatent que ça ne se passe pas bien, elles ont du mal à parler parce qu'il y a de la culpabilité, parce qu'il y a de la honte parfois. Et parce qu'une fois que leur parent est décédé, elles n'ont plus envie d'en parler tellement ça a été douloureux. Donc il y a de plus en plus, heureusement, la parole se libère sur ce sujet-là, avec plein de personnes qui racontent comment leurs parents, leurs proches en tout cas, ont été mal accueillis. Mais il faut que cette parole se libère plus encore, à mon avis, pour que ça devienne, oui, une priorité nationale. Mais moi, je pense que c'est une urgence nationale de revoir comment on aborde le très grand âge vers lequel nous sommes nombreux à aller. Et je pense que ce sont des choix politiques et des choix de société aussi. D'autant qu'il y a des solutions qui existent déjà. Il y a par exemple une association qui s'appelle l'Association Humanitude, qui depuis 30 ans maintenant, travaille à la formation de tout le personnel des établissements d'accueil pour personnes âgées dépendantes. Aujourd'hui, il y a 18 EHPAD qui sont labellisés. Mais ça veut dire former à la bientraitance. C'est très étrange de dire ça, mais dans les formations d'aide-soignante même, on n'apprend pas forcément à regarder un résident, à le porter sans se faire mal et sans lui faire mal, à le laver sans se faire mal et sans lui faire mal. On n'apprend pas non plus à frapper à la porte et à attendre qu'on nous réponde et à refrapper. Dans ces établissements, les gens ils payent parfois très cher, ils sont censés être chez eux. Ils payent parfois plus cher que s'ils étaient à l'hôtel. Et malgré tout, ils doivent se soumettre à la collectivité. Moi, je trouve ça étrange.
On va continuer justement à parler de ces maltraitances et de tout ce dont vous venez de parler, justement en évoquant ces soignants et leur formation, parce qu'on va leur donner la parole dans cette émission, parce que je pense que ces maltraitances aussi, en tout cas l'amélioration de la vie des personnes âgées dans ces EHPAD, passe avant tout aussi par les conditions de travail et de vie de ces soignants. Nous allons continuer à en parler dans cette émission. Merci beaucoup Frédéric Pommier pour votre appel et votre témoignage sur Europe 1. Je rappelle que le titre de votre ouvrage Suzanne aux éditions des Équateurs, on peut le trouver dans toutes les bonnes librairies. Dans un instant, nous allons accueillir Isabelle Dogneau, psychologue, formatrice et directrice d'établissement de services sociaux et médico-social.
Il y a une auditrice, Isabelle, qui nous écrit sur Facebook. La direction des établissements ne doit pas être à la recherche de profits et recruter plus de personnel en contact des résidents, puisque vous évoquiez justement le problème de personnel. Même en crèche, on n'y trouve pas un rapport d'un pour dix. Comment laver, habiller une personne, etc. Lorsque la cadence est comparable à celle d'une usine.
Europe 1.
Comme Frédéric, qu'on vient d'entendre, l'un de vos proches a été victime de mauvais traitements en EHPAD. Olivier Delacroix vous écoute au 3921. Des repas de piètre qualité jusqu'à des violences physiques en passant par des soins bâclés. Les mauvais traitements dispensés à nos seniors dans les EHPAD. Vous en avez été témoin, c'est l'histoire d'un de vos proches. Vous êtes avec Olivier Delacroix et vous composez le 3921.
Et nous sommes maintenant en ligne avec Isabelle Dogneau, psychologue, formatrice, directrice d'établissement et de services sociaux et médico-social. Bonjour madame, merci d'être avec nous sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour, merci aussi.
Bonjour, vous avez dirigé pendant 24 ans une association de services d'aide et de soins à domicile pour personnes âgées et handicapées. On vient d'entendre le témoignage de Frédéric Pommier qui évoquait plusieurs cas de maltraitance. Je sais que vous avez participé dès les années 90 à une réflexion sur les risques de violence et de maltraitance à l'égard des personnes âgées. À partir de quand et pourquoi y a-t-il eu une prise de conscience par rapport à ces maltraitances ?
Je crois que dans les années 95, on était d'abord une poignée de professionnels, que ce soit sur le versant des établissements de santé ou du médico-social ou sur le champ du domicile, notamment avec un des pères de la gériatrie française, Robert Hugonneau, qui en 94 a écrit un livre qui s'appelle « Violence contre les vieux », qui était vraiment la première des alertes pour sensibiliser au-delà des premiers professionnels qui estimaient qu'il n'était pas supportable, pas acceptable de traiter ainsi des personnes âgées vulnérables, que ce soit dans la sphère familiale ou dans la sphère de la prise en compte de ces personnes du champ sanitaire ou médico-social. Mais les deux sont liés, puisque avant d'aller dans ce qu'on appelle aujourd'hui des EHPAD ou avant d'aller à l'hôpital, les personnes vivent à domicile. Et cette prise de conscience, elle s'est faite progressivement, de plus en plus nombreux, là où il n'y avait pas grand-chose dans la littérature, effectivement, dans ces années 95. Je fais partie de cette poignée qui a alerté de professionnels et avec un relais des politiques publiques, notamment avec la secrétaire d'État aux personnes âgées du gouvernement Jospin, Paulette Guinchard, qui avait réuni la première, effectivement, un petit groupe de pluridisciplinaire de professionnels pour lui transmettre des préconisations, effectivement, pour lutter contre ces phénomènes de violence et maltraitance à l'encontre des personnes âgées.
Mais depuis, il est vrai que les maltraitances se sont multipliées. En tout cas, elles ont été largement retransmises, en tout cas diffusées à travers des témoignages, comme dans l'ouvrage de Frédéric Pommier, mais à travers des reportages aussi. Aujourd'hui, le personnel médical se sent souvent incompris, jugé, il est souvent dépassé. Est-ce que, parce qu'ils sont les premiers à être accusés, mais est-ce qu'ils sont réellement la cause de ces maltraitances ou est-ce que le problème est beaucoup plus global ?
Alors, je pense qu'elles ne sont pas forcément en augmentation ces violences ou ces maltraitances, mais effectivement, il y a une libération de la parole et c'est très bien. Il y a de la médiatisation qui peut avoir des effets négatifs, mais aussi des effets délétères, notamment effectivement dans la désignation ceux qui ne répondent pas aux critères attendus, voire maltraitent, parce qu'il ne faut pas cacher la poussière sous le tapis de la bientraitance non plus. Mais il y a effectivement des professionnels qu'on a laissés pendant trop longtemps dans le plus grand désarroi face à la difficulté que représente l'accompagnement des personnes très âgées, parce que c'est un accompagnement essentiellement relationnel, même s'il y a des soins qu'on dit de confort, d'hygiène, c'est surtout de l'accompagnement social avec des supports de compensation en fait des actes de la vie quotidienne que ces personnes ne peuvent plus faire, se lever, se laver, s'habiller, se nourrir. Et puis, être nourri pas seulement au niveau des repas, mais aussi nourri en termes de lien social. Donc, on a aussi une société qui, dans le même temps, et M. Pommier l'a très bien mis en évidence, doit faire face à ce qu'on appelle la révolution de la longévité. C'est-à-dire que,
une augmentation.
Effectivement, cette anticipation, cette projection que chacun d'entre nous doit faire, parce que ce ne sont pas que des projections, on va dire, numériques, parce qu'il y a un groupe de population qui a la chance de vieillir plus longtemps. Donc c'est une chance qu'aucune autre génération n'a connue avant celle de nos grands-parents et la nôtre a fortiori, ou les nôtres a fortiori, et des générations futures. Et comme il le disait très bien, effectivement, penser à son propre vieillissement, c'est pas glamour. Parce que effectivement, c'est aussi penser à notre finitude.
Oui.
Et les progrès de la médecine du XXe siècle, dont nous sommes les héritiers, ce sont des progrès fondamentaux, qui ont permis de reculer les limites, ou repousser les limites du vivant, d'ailleurs aux deux extrêmes de la vie, à la fois en limitant beaucoup les mortalités infantiles et la mortalité des femmes en couche, puis du côté effectivement de l'allongement de la vie, ont entretenu aussi l'illusion de l'immortalité. Et effectivement, pour ne pas avoir à faire face à cette finitude, on entretient effectivement avec aussi des représentations négatives du vieillissement qui sont très très fortes.
Parce qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de personnes qui vivent de plus en plus longtemps. Et comme le disait Frédéric Pommier tout à l'heure, c'est ce pourquoi ça devrait devenir une priorité nationale que de traiter, en tout cas, ce problème de maltraitance et tout simplement de traiter la vie de ces personnes âgées en EHPAD. Merci beaucoup pour votre témoignage, Isabelle Dogniaux. Dans quelques instants, nous allons accueillir Mathilde. Elle était infirmière en EHPAD et elle a fini par quitter son service parce qu'elle était démoralisée.
Europe 1. Que faire contre la maltraitance dans les maisons de retraite, contre un personnel soignant dépassé? On parle des mauvais traitements dans les EHPAD cet après-midi sur Europe 1 avec vous au 39-21. Comment lutter contre la maltraitance dans les maisons de retraite? L'un de vos proches en a été victime. Vous racontez votre histoire à Olivier Delacroix au 39-21.
Et nous sommes maintenant Mathilde, en ligne sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Mathilde, soyez la bienvenue.
Bonjour.
Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous?
Alors, j'ai 25 ans.
Oui.
Et je vous appelle du village dans lequel j'habite, en Ardèche.
D'accord. Alors, vous êtes infirmière Mathilde et le 23 janvier prochain, vous allez publier l'ouvrage « J'ai rendu mon uniforme ». Que dénoncez-vous dans cet ouvrage ?
Eh bien, c'est un petit peu, si vous voulez, l'extension de la lettre que j'ai publiée à peu près à la même période l'année dernière, à savoir que c'est un témoignage qui reprend un petit peu ma vie d'infirmière, comme je l'envisageais avant le concours, comme je l'ai envisagé, comme je l'ai vécu durant mes études, et une fois diplômée. C'est-à-dire qu'au fil du livre, on s'aperçoit finalement des différentes déconvenues que peut avoir effectivement une jeune infirmière qui sort de l'école, avec des valeurs soignantes bien ancrées,
oui.
Et puis s'apercevoir que finalement le milieu professionnel n'a rien de ce qu'on veut bien nous apprendre au cours des études, quoi.
Mais ça doit être d'une violence inouïe pour que vous le dénonciez à travers un titre « J'ai rendu mon uniforme ».
C'est très violent. C'est très violent quand on y est et c'est un soulagement énorme quand on en sort. Mais finalement, ma place est la plus facile parce que je travaille toujours en tant qu'infirmière, on y reviendra peut-être, mais sans uniforme cette fois-ci. Celle à qui je pense à ce moment-là, c'est celles et ceux qui sont encore dans les services. Et la question de fond de ce livre, et là finalement, c'est comment faire pour continuer à travailler dans un univers qui ne ressemble plus aux valeurs soignantes pour lesquelles on a choisi ce métier, et comment faire pour trouver encore du plaisir dans ce métier, tandis qu'on est en train de se rendre compte qu'on est suffisamment désadapté, suffisamment aliéné, voilà, oui. pour supporter de telles conditions de travail.
Mmh. En tout cas, ça n'est pas le métier auquel vous vous attendiez. À partir de quel moment vous avez commencé à réaliser que tout ce que vous voyez, tout ce dont vous étiez témoin, n'était pas normal ?
À partir des stages, à partir des stages qu'on a l'occasion de faire en formation, bien sûr, il y a des situations qui interpellent en tant qu'étudiant. Quand une infirmière nous dit non, tu mangeras plus tard ou tu manges pas, mais je préfère finir l'administratif et t'inquiète pas, ton corps s'habituera au jeûne, c'est pas grave ça. Mmh. On entend ça en tant qu'étudiant infirmier, donc on se dit ah là il y a un problème si déjà on s'autorise en tant que soignant à se rendre malade parce que hypoglycémie, parce que problème de concentration, comment on va faire pour soigner des gens de qui on est censé être responsable? Enfin, à un moment donné, il y a déjà quelque chose de caduque à ce moment-là, quoi.
Mmh. Alors dans votre ouvrage, vous parlez d'avoir rendu l'uniforme et parlez de la maltraitance dont les personnels infirmiers sont victimes, mais justement aujourd'hui on parle des maltraitances des patients dans ces EHPAD, et ces maltraitances, elles viennent essentiellement du fait que un personnel qui est maltraité, auquel on ne fait plus attention depuis longtemps, qui est mal payé, qui est à la dérive lorsqu'on lit votre ouvrage, c'est à votre avis la raison majeure pour laquelle on voit toutes ces dérives concernant des patients qui sont maltraités aujourd'hui dans les EHPAD ?
En fait, quand on parle de patients maltraités, attention, on ne parle pas d'actes volontaires, on est d'accord,
c'est
de la négligence plus que de la maltraitance, c'est de la maltraitance par négligence, si on peut dire. Et en effet, je pense que ça vient de l'épuisement professionnel, c'est-à-dire que l'épuisement professionnel prend plein de formes différentes, y compris celle-là, y compris la négligence, en disant, en tant qu'infirmière, des fois on se dit, j'ai pas le temps d'aller voir l'ampoule de Madame Machin ou l'escarre de Monsieur Truc, ça peut attendre un jour de plus. Mm-hmm. Enfin, c'est déjà de la maltraitance. Et pourtant, c'est seulement qu'on a une liste de tâches à accomplir en l'espace de quelques heures. On doit prioriser et on finit par prioriser de manière un petit peu arbitraire parce qu'on ne peut pas faire autrement, quoi.
Mm-hmm. Et vous, quelles sont les maltraitances qui vous ont le plus choqué ?
À commencer par celle-ci, un médicament prescrit qui ne peut pas être distribué, un collier à mettre qu'on n'a pas le temps de mettre.
Ouais.
Par ailleurs, des propos grossiers à qui voulait bien les entendre au milieu d'un couloir, une soignante qui avait tendance à s'exprimer de manière un peu véhémente en disant « Oh non, il a encore chié, oh machin, oui, enfin, non, on ne parle pas comme ça en sortant d'une chambre, le patient l'entend, les familles qui sont là l'entendent, enfin, voilà, et ça malheureusement, c'est pas rare, ça n'appartient pas à une soignante, ça peut arriver à tout le monde et à n'importe qui, dans le milieu du soin, j'entends en tout cas, et c'est des formes d'épuisement professionnel, c'est-à-dire qu'en fait, peut-être que les personnes qui sont finalement à l'origine de maltraitance auraient peut-être mieux fait d'arrêter avant d'en arriver là, parce que si elles en sont là, c'est pas de gaieté de cœur, c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui les a fait un peu lâcher, justement, la petite flamme qui les animait.
Il y a sûrement une érosion, un épuisement. C'est ce sans doute pourquoi beaucoup de familles dénoncent le fait que certains EHPAD donnent l'impression d'être des mouroirs. C'est ça aussi vrai. Le problème ?
C'est ça, et puis c'est que on parle effectivement de lieux de vie dans lesquels on entasse tous nos aînés, parce que c'est, faut dire ça comme ça. Mais où est-ce qu'on crée de la vie si on crée pas des après-midi d'animation, si on crée pas des rassemblements entre familles et résidents, pourquoi pas des rassemblements intergénérationnels? Ça se fait dans certains établissements, ça se fait dans beaucoup d'établissements, mais dans d'autres, il n'y a pas le personnel, il n'y a pas les moyens, il n'y a pas le temps. Les aides-soignantes ont mille autres choses à faire que de créer une animation le jour où l'animatrice n'est pas là. Et donc, comment créer du lien, comment créer de la vie et de la récréation, tandis qu'il y a une aide-soignante pour 22 résidents.
J'allais vous dire, tandis qu'il n'y a pas les moyens nécessaires pour que tout ça se fasse, tout simplement. Merci Mathilde pour votre appel et votre témoignage au 3921. Je le rappelle, votre livre « J'ai rendu mon uniforme » sera en librairie dès le 23 janvier prochain. Et nous serons dans quelques instants avec Christine. Elle est directrice d'un EHPAD labellisé Humanitude. Nous en parlions dans la première partie de cette émission avec Frédéric Pommier. Une méthodologie de soins pour le mieux vieillir.
Europe 1.
Comment faire pour que nos seniors soient bien traités dans leur maison de retraite ? On vous écoute au 39-21. Jusqu'à 16h, vous êtes avec Olivier Delacroix et nous parlons des maltraitances dont sont victimes les résidents des EHPAD. Ça concerne l'un de vos proches, on vous écoute au 39-21.
Et nous sommes maintenant en ligne avec Christine. Bonjour madame, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour, merci.
Bonjour, vous êtes directrice de la résidence Bon Accueil, près de Touvoir, en Loire-Atlantique. Avant toute chose, que ressentez-vous à l'écoute de tous ces témoignages de maltraitance, d'infirmières et aides-soignants épuisés, qui sont à bout? Que cela vous invoque-t-il?
Je ne sais pas ce que cela m'inspire. Je pense que c'est une réalité dans un certain nombre d'établissements et qu'effectivement, si en tant que responsable d'établissement, on en reste juste à ce constat, parce que c'est une vraie réalité qu'on manque de personnel, que notre personnel est sous-payé, enfin tout ce que l'on sait déjà, et qu'on en reste à se dire ça, et en attendant peut-être qu'au-dessus de nous, des sommes miraculeusement nous tombent dessus, on risque d'attendre un petit peu longtemps. Donc peut-être qu'à un moment donné, c'est aussi à nous de prendre les choses en main et de se dire que peut-être il faut mettre en place et utiliser des outils, mettre en place des méthodes qui vont nous permettre d'avancer, de remettre les résidents au cœur de notre projet, de redonner du sens à ce pourquoi on vient chaque matin au travail. L'intérêt, c'est tant pour le résident, sa famille et ses proches, mais aussi pour le personnel, parce que un résident qui est maltraitant, même d'une maltraitance institutionnelle, comme la personne précédemment l'a décrite, c'est un personnel qui est en souffrance.
Bien sûr.
Se battre pour faire un soin, le résident, évidemment, en sort grand perdant, mais le personnel soignant, quand il sort d'un soin où il était en conflit avec, au cours de ce soin, il n'est pas bien.
Justement, votre résidence a été labellisée « Humanitude ». Je reprends ce que vous me disiez il y a quelques secondes. Il faut prendre en compte tous ces problèmes et puis essayer de bouger plutôt qu'attendre des sommes hypothétiques. Humanitude, qu'est-ce que cela veut dire exactement?
Humanitude, ça se base sur 5 piliers. On s'engage tous, et quand je dis tous, ça n'est pas que les équipes soignantes, c'est vraiment collectivement tout le personnel de l'établissement, des cuisines aux responsables logistiques, aux services administratifs, en passant bien sûr par les équipes soignantes. On s'engage à ne faire aucun soin de force. Et pour autant, on n'abandonne pas les soins, on les fait, mais on les fait différemment. On accepte de faire du report de soins. Concrètement,
pardonnez-moi, que sont les soins de force? Parce que je ne sais pas ce que c'est.
Le soin de force, c'est je viens 8 heures dans la chambre d'un résident parce que je suis aide-soignante et que 8 heures, je dois commencer mon tour
d'accord,
de douche.
D'accord.
C'est horrible de dire ça comme ça.
Oui.
Mais le premier résident où j'arrive à 8 heures, lui, il n'a pas du tout envie d'avoir à 8 heures sa douche.
Mmh.
Et la méthodologie Humanitude, c'est aussi apprendre que 8 heures, le résident n'est pas prêt, on va faire du report de soins. C'est-à-dire qu'on va faire un contrat avec lui en lui disant on prend rendez-vous, je viendrai plus tard, je reviendrai à 10 heures ou je reviendrai à 11 heures. Et éventuellement, la douche, elle sera faite à 16 heures cet après-midi. Et c'est pas grave, la douche, elle sera faite, mais dans une ambiance pacifiée, parce que le résident, il sera prêt à recevoir ce soin à ce moment-là.
Mmh. Mais cet engagement que vous prenez et dont visiblement vous arrivez à l'appliquer, cet engagement, est-ce qu'il est réellement possible dans tous les établissements? Est-ce que cela pourrait fonctionner partout, cette méthodologie?
Moi, je suis convaincue, donc je vais vous dire que oui. Ce qui me semble important, c'est que l'engagement ne soit pas que d'une seule personne au sein de l'établissement. Il ne faut pas que ce soit le directeur qui se le dise, on va faire Humanitude, on va appliquer la méthodologie sans expliquer, sans pédagogie derrière. Il faut vraiment que ce soit un engagement collectif. Et c'est pour ça que c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut vraiment que ce soit au-delà des soignants. J'entendais tout à l'heure M. Pommier qui parlait de sa grand-mère, je crois, en disant « mais ce qu'elle mangeait, c'était insipide ». Nous, ici, on a des équipes de cuisine qui sont extrêmement investies. Je pense qu'on est reconnu pour la qualité des plats que l'on sert aux résidents. Sauf qu'on sait aussi que l'avancée en âge, le grand âge et les pathologies associées peuvent entraîner des troubles autour de la dysphagie. Et ici, par exemple, on va s'attacher à présenter exactement les mêmes mets dans des textures modifiées, de manière jolie pour faciliter l'appétence des résidents qu'on accueille.
En attendant de vous remercier pour votre témoignage, madame, je dois souligner l'investissement et ce label aujourd'hui auquel vous croyez fortement et qui, j'espère, s'étendra à tous les EHPAD. En tout cas, merci pour votre témoignage. Nous allons continuer à parler justement de la possibilité d'étendre ce label à tous les établissements avec Bernard, qui est directeur d'un EHPAD.
Et il y a Maï, alors j'espère que je prononce bien son pseudo sur Facebook, un extrait du témoignage de Maï. Je travaille en EHPAD, il y a peu j'ai dénoncé avec une collègue des actes de malveillance, ça durait depuis des années. Même moi, je me suis tue, je rentrais chez moi en pleurant, j'ai osé dénoncer car je n'étais pas seule. Les personnes concernées vont passer en conseil de discipline. Je vis actuellement dans la peur des représailles, mais si c'était à refaire, je le referais.
Europe 1.
Comment lutter contre la maltraitance des seniors dans les EHPAD ? Vous en parlez cet après-midi au 39-21 avec Olivier Delacroix. Vous êtes avec Olivier Delacroix et nous parlons de la maltraitance dans les EHPAD. Comment lutter contre ?
Nous sommes maintenant avec Bernard. Bonjour monsieur, vous êtes directeur depuis 8 ans. Bonjour, vous êtes directeur depuis 8 ans d'un EHPAD. Nous écoutions il y a quelques instants le témoignage de Christine qui parlait de cet EHPAD labellisé Humanitude. Il était fortement question d'engagement, de vocation poussée du personnel. Je sais que vous avez constaté depuis longtemps les maltraitances au sein des EHPAD. À votre avis, qu'est-ce qui pourrait améliorer la vie du personnel pour qu'il se sente mieux et qu'il puisse mieux faire son travail ?
Je tenais à compléter les propos de ma collègue qui est intervenue juste avant moi.
Oui.
Par rapport à l'humanitude. Dans notre établissement, nous appliquons une autre méthode qui s'appelle la validation. Et en fait, c'est tout à fait vrai, c'est une histoire d'engagement, de volonté de la part, pas seulement du directeur d'un établissement, mais aussi de l'ensemble des personnels, et d'une implication. Autrement dit, quelle que soit la méthode, validation, humanitude, peu importe, ce qui est important, c'est de prendre en compte vraiment la personne âgée en tant qu'adulte qui, s'il a perdu certaines de ses facultés, est totalement responsable. Elle est chez elle, dans un EHPAD, elle est chez elle, et on doit lui apporter toute l'attention nécessaire. Alors, je pense que pour répondre à votre question et éviter cette maltraitance, la première des choses à faire, c'est donner les moyens dans les EHPAD, dans les établissements du médico-social, donner les moyens en personnel. Pour vous donner un exemple, notre EHPAD, qui est un EHPAD privé à but non lucratif, nous avons un ratio en personnel total qui est de 0,82 exactement. C'est-à-dire que pratiquement, pour un résident, nous avons un salarié.
Oui.
Et ça, c'est extrêmement important. Comment voulez-vous que dans une équipe de soins qui est en charge nos résidents, comment voulez-vous, s'ils sont trois personnes, trois aides-soignantes, avec la meilleure volonté du monde, si elles sont trois pour s'occuper de 50 résidents, vous imaginez ce que ça peut donner au niveau de la toilette qui est un moment extrêmement important pour les résidents.
Bien évidemment.
Que ça peut donner dans plein de domaines. Chez nous, une toilette, elle dure entre 15-20 minutes pour la plus basse à 45 minutes.
Et vous avez tout résumé, Bernard. C'est malheureusement la fin de cette émission et je n'ai malheureusement pas plus de temps à vous accorder. Mais lorsque je vous entends dire que pour un patient, il y a un membre de personnel, voilà, on a résumé tout à fait la situation et on comprend combien les conditions de travail pour ce personnel doivent être plus que difficiles. Merci en tout cas à vous, Bernard, pour votre témoignage au 39-21. Merci aussi à Frédéric Pommier, à Isabelle Dogneau, à Mathilde et à Christine de nous avoir appelé. Je rappelle le titre de l'ouvrage de Frédéric Pommier qui est destiné à sa grand-mère et qui s'appelle Suzanne. C'est la fin de cette émission. La maltraitance dans les EHPAD est un véritable enjeu de santé publique. Nous l'avons vu, c'est souvent par manque de moyens que nos seniors se retrouvent dans des conditions déplorables. Les proches et le personnel soignant se sentant coupables et accusés souvent d'être les premiers responsables de tout cela. Certains parlent de scandale d'État, d'autres de violence institutionnelle face au sous-investissement de l'État. Le ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a annoncé, entre autres, dans sa feuille de route, que les EHPAD recevraient 360 millions d'euros supplémentaires de 2019 à 2021 pour recruter des personnels soignants. Souhaitons que cela améliore la vie de tous, car il est bon de rappeler aujourd'hui, à cette heure, que nous tous ici réunis dans ce studio, puisque nous avons la chance d'avoir de jeunes stagiaires comme des quarantenaires, des cinquantenaires, plein de... On ira tous un jour dans ces établissements et qu'il faut dès maintenant s'occuper des conditions dans lesquelles nous y vieillirons, puisque nous sommes de plus en plus et par chance, nous vivons de plus en plus longtemps. On peut continuer à en discuter.
Sur les réseaux sociaux, oui. Le groupe de l'émission, sur la page Facebook d'Europe 1, sur Instagram, Olivier Delacroix officiel, et puis retrouver ce soir la libre antenne d'Europe 1. Si vous le souhaitez, vous pouvez échanger avec Sophie Peters entre 22h30 et 1h du matin.
Europe 1.
Demain, nous parlerons ensemble de l'environnement. Que faites-vous au quotidien pour le préserver? Quels sont vos petits gestes? Si vous avez adopté un nouveau mode de vie pour préserver l'environnement, si cela fait peu de temps que vous vous rendez compte qu'il faut faire quelque chose, si vous essayez de concrétiser, de conscientiser votre entourage, pardon, appelez-nous au 3921 pour nous parler de votre histoire et nous serons là pour vous écouter. J'ai été ravi de passer cette heure avec vous,
également,
ma chère Ambline.
À demain.
Et à demain, je vous laisse. On est un petit peu en retard, pardonnez-moi, Laurence.
Bon, alors là, vraiment, bon, je ne vous en veux pas.
Bon, et bien, écoutez, merci beaucoup.
Je vous en prie.
Et on va jouer avec qui aujourd'hui?
Ah, je ne sais pas si vous allez rester.
Bon, pourquoi ça?
Ah si, j'en suis sûre.
Tu crois?
Ouais.
Bah pourquoi?
Clara Morgan.
Bah si.
Je vais rester.
Très bien, bah écoutez, bonne émission avec Miss Clara Morgan et à lundi les filles.
À demain.
Bon, tu veux
demain.
Pas venir demain,
demain. Mais oui, on est jeudi.
Oh là là,
ça va mieux, moi. On est déjà Noël.
Monsieur, demain, viens pas.
À demain.
Ensuite, avec Laurence Boccolini sur Europe 1.
Europe 1.